Fun For You avec Parthenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Fun For You. Comme chaque semaine, on se retrouve sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast pour parler santé, vie intime et bien-être. Fun Radio. Mon invité du jour s'appelle Thomas Dansbourg. Bonjour Thomas.
Bonjour Simon.
Tu es psychothérapeute et conférencier, auteur du livre à succès Cessez d'être gentil, soyez vrai, et tu viens nous présenter ton nouveau livre Te changer toi, peut tout changer, qui est sorti aux éditions HarperCollins. Alors dans une époque où on parle beaucoup de changer le monde, changer la société, changer les systèmes aussi, toi tu dis que la première révolution, elle est intérieure. Pourquoi ?
Parce que nous avons construit un monde qui correspond à nos systèmes de pensée. Nous avons créé une société très patriarcale, très pyramidale, avec des mécanismes d'oppression systémique qui peuvent nous bousiller la vie. Eh bien, ça vient du fait que nous pensons d'une certaine façon qui est souvent tendue, belliqueuse et truffée de mécanismes que j'ai appelés des mécanismes autobloquants et des enfermements. Et nous avons donc besoin de remettre en question ces systèmes de pensée pour pouvoir créer une autre société.
Alors tu parles de boussole, d'axe de vie, tu entends quoi par là ?
J'ai la conviction depuis que je me suis occupé pendant 10 ans d'une association pour des jeunes dits de la rue, des jeunes, des enfants du juge pris dans la délinquance, la petite criminalité, en les aidant à trouver du sens à la vie. J'ai la conviction que nous disposons tous d'une boussole intérieure et que malheureusement nos systèmes éducatifs ne nous invitent pas à la trouver. On fait les choses parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, en pilote automatique, en suivant une sorte de programme extérieur à nous. Et il est rare que dans nos éducations, nous ayons appris à nous écouter pour comprendre où est ma boussole. Elle a peut-être été rouillée par certaines habitudes, parfois des traumatismes, parfois des blessures, ok, mais je peux apprendre à dérouiller ma boussole et lui permettre de refrétiller pour me redonner mon or à moi, pas le nord de la société, le mainstream comme on dit, le copier-coller de tout le monde, non, ce qui fait sens, un sens personnel et vivant pour moi. J'ai la conviction que nous avons tous cette boussole et qu'il est temps de la remettre en route, sinon nous entrons dans des mécanismes de violence parce qu'il y a de l'amertume, de la frustration et on fait payer notre dépit aux autres.
Et concrètement, comment on fait pour identifier nos propres besoins? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Avec tous les besoins qui sont dictés par la société dans laquelle on grandit, dans laquelle on vit, etc. Comment on fait vraiment concrètement pour identifier nos besoins ?
Oui, ce qui est dicté par la société, c'est des envies et des désirs multiples et changeants et insatiables. Ce que l'on peut apprendre, c'est à discerner nos vrais besoins profonds, fondamentaux, qui eux sont sobres. Et ça, ça devrait faire partie de l'apprentissage depuis la maternelle, évidemment. Savoir qu'est-ce que je veux vraiment vivre et pas ce qui m'agite, simplement m'excite, me donne une sorte de stimulation momentanée. Et donc, comment est-ce qu'on apprend ça ? Ben, en apprenant à se rencontrer, tout simplement. Je vais apprendre à rencontrer cette première personne dont j'ai la charge, qui est moi. Et ça suppose de prendre des rendez-vous réguliers. Ça va pas se faire par hasard. Si un jour tu veux rencontrer quelqu'un que tu trouves sympathique parce que tu l'as croisé dans une fête, une soirée, un café, eh ben, ça va pas se faire par hasard. Tu vas lui dire, tiens, est-ce qu'on peut prendre un café ensemble ? Si on sympathise, ben, on peut faire un petit tour, on va se promener au parc ou au bois, et puis on va peut-être aller au cinéma ensemble. Et petit à petit, on va construire soit une amitié, soit peut-être même une relation amoureuse, parce qu'on se donne des rendez-vous. Eh bien, c'est pareil avec soi-même. J'ai besoin de me donner des rendez-vous pour comprendre cet individu que je suis.
Alors, dans ce livre, tu expliques qu'il existe 5 mécanismes de pensée qui nous enferment dans un quotidien. C'est quoi ces mécanismes, finalement, et c'est quoi les plus répandus ?
Oh ben, ce sont des mécanismes que j'observe depuis... Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier d'accompagner les gens à travers les cycles et saisons de l'existence, en quête de sens. Et j'observe des constantes, et donc notamment ces 5 mécanismes que j'ai appelés des mécanismes autobloquants. Parce qu'en tant qu'on est pris dedans, on est auto-bloqué dans notre processus d'évolution. Et ce qui apparaît, c'est qu'on peut pas sortir d'un piège, donc d'un auto-bloquant, sans savoir qu'on est pris dedans. Quand on sait pas qu'on est pris au piège, on subit, on se résigne, on se dit c'est comme ça, ça changera pas. Mais nous avons juste besoin de comprendre conscience, attends, je suis piégé. Et la possibilité de percevoir le piège, c'est le fait de ressentir, et beaucoup d'entre nous ressentons, j'aspire à autre chose, je tressaille vers une autre façon d'être en vie, je sens une impulsion profonde de vie pour que la vie soit différente, soit meilleure, soit plus savoureuse, plus goûteuse. Je tends vers ça. Et en même temps, des choses bloquent, des choses me freinent, des choses me ligotent. Et il y a quelque chose qui m'empêche. Alors là, on peut commencer le travail dans cette tension-là, à aller voir qu'est-ce que j'aimerais vraiment vivre et qu'est-ce qui m'en empêche, et petit à petit, apprendre à démanteler, déprogrammer. Heureusement, ce sont des programmations, donc ça peut se déprogrammer.
Et ça vient d'où tous ces mécanismes ? De l'éducation, de la société ?
Alors, en partie de l'éducation, évidemment, le milieu dans lequel on a grandi directement, papa, maman, les proches, etc. Mais également beaucoup de ces pièges, de ce que j'appelle des enfermements, ont trait à la société. Même si on a vécu dans une ambiance peut-être plus favorable et encourageante dans une famille, on baigne dans une société et donc on ne voit pas ça comme étant des pièges, puisque tout le monde pense comme ça. On se dit, bah, c'est la seule façon de penser.
Bien sûr.
Alors on s'aligne, on moutonne, je dirais, par habitude, par mimétisme. Donc ça demande un peu de courage, un peu de force intérieure et un peu de détermination de dire, maintenant, je ne veux plus penser comme tout le monde. J'observe mon système de pensée pour le nettoyer de ce qui n'est pas moi. Nettoyer mon système de pensée de ce qui n'est pas moi. Arriver à trouver qu'est-ce qui est vraiment moi là-dedans. Comment j'ai envie de penser les choses. Eh ben, c'est du boulot, hein. C'est pas un truc bisounours. Mais c'est effectivement, à mon avis, la seule façon de transformer nos systèmes, nos habitudes, nos automatismes. On est en pleine guerre, là. Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre sans s'interroger? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de gérer les enjeux humains que de se taper dessus? Mais tant qu'on se tape dessus dans son couple, dans sa famille avec ses enfants, dans les classes avec les élèves et dans les rapports humains et les parties, eh bien, on va entretenir un climat guerrier. Nous avons besoin de créer un climat de rencontre et qui suppose une meilleure connaissance de soi pour être pas piégé dans l'ego.
Alors, on a parfois le sentiment qu'on se retrouve dans une vie qui ne nous ressemble pas. Comment faire pour éviter finalement de se retrouver dans cette situation? Parce que, tu le disais, une fois qu'on est rentré dedans, c'est assez compliqué d'en sortir. Mais comment faire pour éviter tout ça?
Ben, ça devrait être la base de l'enseignement. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Comment tu te vois dans 10 ou 15 ans? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce que tu as envie de promouvoir? Quels sont les bons talents, la belle sensibilité dont tu disposes, ou la belle force, la belle puissance? Tout le monde a des qualités différentes. Et que tu as envie de mettre au monde pour enrichir le monde. En sorte que dès l'enfance, nous sentions que nous sommes bien guidés de l'intérieur. Et ça, c'est pas une formule bisounours angélique. C'est ma conviction profonde depuis tant d'années que j'accompagne les personnes. Nous sommes bien guidés de l'intérieur, mais nous ne le savons pas. Et donc, nous faisons ce que tout le monde fait par abattis, par pilote automatique. Et donc, il est temps d'écouter cette guidance intérieure, cette boussole ou ce fil rouge, selon les mots qu'on emploie.
Alors, tu parles beaucoup d'éducation depuis tout à l'heure. C'est vrai que dans cette société, on nous apprend à lire, à écrire, à compter. Mais on ne nous apprend pas vraiment à nous connaître nous-mêmes. Pourquoi, finalement, c'est aussi absent dans l'éducation, tout ça?
Parce que jusqu'ici, on n'y a pas porté attention. On s'est juste intéressé à former notre intelligence logico-mathématique, ce qui est un très bon canal, bien sûr, mais c'est pas le seul canal d'intelligence. Nous disposons d'une douzaine de canaux d'intelligence, à commencer par l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle intérieure, pour comprendre toutes les parties de soi et les amener à s'entendre plutôt que de les diviser par de la culpabilité ou de la honte. L'intelligence relationnelle extérieure, pour comprendre ce qui se passe chez les autres. Et plus je comprends l'humain en moi, plus j'ai des clés pour comprendre l'humain en l'autre. De l'intelligence intuitive, tellement précieuse pour traverser les périodes extrêmement complexes où nous sommes aujourd'hui, etc. Il y a de l'intelligence musicale, de l'intelligence kinesthésique, etc. Même de l'intelligence spirituelle pour comprendre l'esprit spire, qui souffle et qui fait que la vie est vie. Ces canaux d'intelligence sont absolument déconsidérés dans nos systèmes éducatifs et c'est pour ça qu'effectivement on n'apprend pas à savoir qui on est. Je recommande depuis des années dans mon travail qu'à côté de lire, écrire et calculer, que tu viens de rappeler, ce sont les piliers de l'enseignement à travers la planète.
Oui, ça reste très important, on va pas se mentir.
On va pas annuler ça, c'est sûr. On a besoin d'apprendre à lire, écrire et calculer, c'est sûr. Mais on a également besoin à savoir qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que ça dit de moi, où est ma boussole et où est mon or à moi, qu'est-ce qui me met en joie, en expansion, en ouverture et au service de la vie, mais aussi qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce qui me peine, qu'est-ce qui me divise, qu'est-ce qui me déchire, qu'est-ce qui me rend impuissant ou en rage et que j'ai besoin de comprendre avant que de faire payer mon dépit aux autres. C'est citoyen, la connaissance de soi. C'est un enjeu de santé publique. On n'est plus en train de faire du développement dit personnel, là. On est en train de faire du développement social durable qui commence dans la capacité à mettre ce citoyen, cette citoyenne que nous sommes au bon endroit.
On a aussi l'impression que nos mal-être aujourd'hui, ils viennent toujours de l'extérieur. Par exemple, le travail, la société, les gens qui nous entourent. Alors qu'en réalité, il y a peut-être une petite partie du problème qui vient de nous aussi, non?
Bien sûr, plus que ce qu'on croit. Évidemment, nous avons rarement du pouvoir sur ce qui nous arrive. Ça nous arrive, mais nous avons toujours du pouvoir sur comment je vais gérer ce qui nous arrive, comment je vais gérer ce qui m'arrive, comment je vais transformer ça. Et même si c'est une épreuve, comment je peux utiliser cette épreuve peut-être comme une occasion d'éclosion, exactement comme on casse un œuf pour faire une bonne omelette ou comme l'œuf éclos pour faire un poussin, eh bien, il y a une rupture à faire. Et des ruptures arrivent pour nous permettre d'éclore assez souvent dans la vie, si je veux bien accepter de le regarder comme ça. Alors, c'est ça l'idée, c'est d'observer ma façon de réagir pour petit à petit la mettre au service d'une éclosion. Nous sommes à la période du printemps, les bourgeons sont en train d'éclore. Nous avons besoin d'éclore et de quitter le petit bourgeon fermé dans les enfermements, les habitudes, les automatismes pour éclore et polliniser. C'est le sens de la vie, c'est apporter le meilleur de soi au service de tous.
S'il y a des auditeurs là qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de se dire « j'aimerais changer certaines choses de ma vie, je me sens peut-être plus en phase avec ma boussole, avec mon axe de vie dont on parlait tout à l'heure », c'est quoi les premières questions à se poser ?
Vers quoi aimerais-je aller ? Vers quoi je sens cette pulsion de vie ? Qu'est-ce qui par moment me fait tressaillir dans la société ? Peut-être qu'un film, un livre, une histoire, une actualité m'a dit « mais oh, ça c'est une belle vie, ça c'est des belles choses, j'aimerais pouvoir faire ces choses comme cela ». Et là je sens le tressaillement, comme je l'évoque, de la boussole. À ce moment-là j'ai une direction, j'ai envie d'aller par là. Et donc je peux me dire « mais quels apprentissages je peux faire pour aller par là ?» Exactement comme celles et ceux qui nous écoutent, il y a sûrement des personnes qui ont décidé d'apprendre un instrument de musique, la guitare, le piano ou la trompette, d'apprendre des langues étrangères, d'apprendre un sport, le tennis ou le foot ou le ski. Et qu'est-ce qui a fait ça ? Un tressaillement, en voyant des gens pratiquer ces choses, on se dit « ah, mais moi j'ai envie aussi !» Ça donne une direction. Et lorsqu'on a la direction, on va mettre en place le processus d'apprentissage. Et on va démanteler ce qui freine. Par exemple, les gens qui ont envie d'apprendre à chanter, souvent ils sont dans la croyance « je ne sais pas chanter ». Si je reste dans ma croyance « je ne sais pas chanter, je chante faux », je vais passer les 350 prochaines années de ma vie à constater que je ne sais pas chanter. Je vais me maintenir dans mon enfer, maman. J'ai donc besoin de décider « j'ai envie d'apprendre à chanter, qu'est-ce que je peux faire pour ça ?» Eh bien, je vais rejoindre une chorale ou un cours de chant et petit à petit former ma voix pour apprendre à chanter juste. Ça,
et
ça
peut-être avoir le regret finalement de ne jamais avoir essayé, parce que même si c'est peut-être vrai, moi par exemple, j'aimerais beaucoup savoir chanter, je pense que très sincèrement, je n'y arriverai jamais, mais pourquoi pas essayer en vrai ?
Mais bien
pour
sûr.
Ne pas avoir de regrets, c'est important aussi de ne pas avoir de regrets par rapport à tout ça.
Exactement, d'avoir au moins essayé. Et pour t'encourager, j'ai travaillé pas mal dans des ateliers d'art-thérapie avec des amis chefs de chœur qui font chanter les gens. Eh bien, ils me confirment que tout le monde sait chanter, mais pas tout le monde a une bonne oreille au départ. Et c'est pour ça que quand on est enfant et qu'on n'a pas une très bonne oreille, on peut être à côté du truc. Et alors tous les copains s'entendent pour te dire « tu chantes faux, arrête de chanter ». Et on encode le message « je chante faux, je sais pas chanter ». Alors on peut passer sa vie dans cet enfermement. Et notez bien que ça crée une croyance, je sais pas chanter. Et donc cette croyance a un effet protecteur.
Ouais.
Parce que si on me dit dans une fête, un anniversaire, un mariage, viens chanter avec nous, pour ne pas être moqué, je vais dire non, moi je sais pas chanter, allez-y, je vous écoute. Et c'est protecteur. Mais à un moment, quand on voit tout le monde s'amuser à chanter, parce que c'est quand même drôlement joyeux de chanter ensemble, je vais regretter ce qui m'a coincé. Et donc c'est intéressant de voir dans nos vies d'une façon générale que ce qui m'a servi, à un moment, m'a servi. Au sens, m'empêche, me limite, me bloque. Et donc, il est temps de remettre en question ce fonctionnement, cet enfermement.
Et si on ne devait retenir qu'un seul message de ce livre, ce serait lequel selon toi ?
Te changer, toi, peut tout changer. Mais c'est plus précisément ma conviction profonde, c'est de nouveau pas de l'angélisme, c'est de l'empirisme, de l'expérience que nous disposons pour nous transformer et transformer donc notre façon d'être au monde, on va changer le monde, mais notre façon d'être au monde, notre écosystème relationnel, d'un pouvoir aussi considérable qu'ignoré. Ça, c'est vraiment la force que je découvre tous les jours dans mon travail et que j'ai envie de faire savoir pour que les gens ne restent pas prostrés, résignés dans une vie subie, mais sentent que petit à petit, c'est de l'ordre du jardinage, on peut s'acheminer vers une vie choisie. Ça, c'est mon souhait profondément parce que là, il y a infiniment plus de respect mutuel, d'intention, de paix. Alors que quand on subit la vie, on a envie de la faire super aux autres et ça génère beaucoup de violence.
Alors, tu es aussi formateur en communication non violente. C'est quoi ça exactement ?
C'est une approche qui nous invite à observer que les humains à travers la planète cherchent la même chose fondamentalement. Ils ont les mêmes besoins. Besoin de sécurité, besoin de nourriture, besoin d'abri, mais aussi besoin d'entraide, besoin de compréhension mutuelle, besoin d'amour, de tendresse, besoin de sens. Les besoins fondamentaux sont les mêmes à travers la planète, semble-t-il. C'est une hypothèse de travail. On n'a pas travaillé avec 8 milliards de personnes, évidemment. Mais on a pas mal travaillé sur le sujet quand même depuis que cette approche existe. Ça fait plus de 50 ans. Mais ce qui peut nous mettre en pétard, en dispute ou même en conflit, c'est la façon de vivre nos besoins, la mise en place de nos besoins ou le fait que même si nous cherchons les mêmes besoins, certaines personnes cherchent ces besoins de façon désespérée. Je voudrais de la sécurité, mais j'en ai pas. Je voudrais de l'appartenance, mais j'en ai pas. Je voudrais du sens à ma vie, mais j'en ai pas. Je voudrais tellement être compris, mais je suis pas compris. Je cherche à trouver ma place, mais je la trouve pas. Quand nos besoins sont frustrés, une désespérance s'instaure et il peut y avoir de la violence, effectivement. D'où l'importance d'apprendre à connaître nos besoins et à connaître notre vraie nature.
Alors, on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Tu étais avocat et tu as travaillé avec des jeunes en difficulté. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à changer de voie ?
L'expérience que dans mon métier d'avocat, j'avais appris à faire du droit, mais je n'avais aucune compétence émotionnelle. C'est étonnant, c'est un métier pourtant d'écoute, d'accompagnement des personnes dans toutes sortes de projets ou de difficultés. J'ai pas reçu un cours d'écoute, pas reçu un cours de relation, pas un cours d'intelligence émotionnelle. Vos émotions, on s'en fout, on va vous trouver une bonne solution juridique et tout ira bien comme ça. C'est pathétique, mon Dieu. C'est pas comme ça qu'on règle un divorce, une garde d'enfants, une sortie d'indivision, un partage d'héritage entre héritiers qui s'entendent pas, un conflit entre associés dans une entreprise. Mon Dieu, les émotions sont absolument partout et j'ai pas reçu une clé pour ça. Et je me suis dit, mais moi j'ai besoin d'apprendre, de remonter en amont des conflits. La plupart des conflits sont liés à des malentendus et les malentendus sont des combinés de mal exprimés et de mal écoutés. Mais donc je me disais déjà comme avocat, mais si les gens avaient appris à s'exprimer un peu mieux plutôt qu'en étant d'emblée agressif et un peu mieux à écouter l'autre plutôt que d'être tout de suite énervé par le ton et le langage, si cette écoute empathique existait, on éviterait tellement de conflits qui encombrent la justice et bousille l'énergie des gens. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de faire un travail autre, j'ai envie de remonter en amont des conflits, j'ai envie d'apprendre à mieux connaître l'humain en moi, et je le connais pas bien, et je voyais ça notamment en m'occupant, parce que, comme je l'ai dit, je m'occupais en bénévolat d'une association pour les jeunes, difficile de comprendre l'humain devant qui est au bord du suicide parce qu'il en a ras-le-bol. Si moi, j'ai jamais écouté l'humain dedans quand il en a marre, et que parfois, il se dit, moi j'irai bien ailleurs, parce que franchement, cette vie, elle vaut pas la peine. C'est difficile d'écouter le gamin qui est en rage, qui a envie de faire tout péter, quand moi-même, si gentil, si polissé, je n'écoutais jamais ma rage parce qu'il ne faut pas être enragé, il faut être gentil, poli et courtois. Et donc, j'ai réalisé que pour comprendre l'humain devant, il s'agit de comprendre l'humain dedans. Et que ça, je n'avais pas appris à le faire. Ça m'a amené en thérapie. Et là, très vite, j'ai voulu être thérapeute à mon tour.
On rappelle ton livre « Te changer, toi peut tout changer » qui est sorti aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup Thomas Dansbourg d'être venu nous voir ici sur Fun Radio. C'est un réel plaisir.
Merci Simon pour l'accueil. Merci beaucoup.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.